Bonjour à toutes et à tous, édition spéciale du Grand Moudre aujourd'hui depuis l'Institut français de Beyrouth au Liban. Beyrouth, capitale d'un pays aujourd'hui en paix, mais avec une guerre terrible à ses portes. En partie enclavée par son voisin syrien, le Liban subit les déflagrations d'un conflit qui dure depuis plus de 5 ans. Un impact qui se mesure d'abord à travers cette statistique. Au Liban, un habitant sur 4 est un réfugié syrien. De quoi fragiliser n'importe quel pays, a fortiori celui-ci où le souvenir de la guerre civile de 1975 à 1990 est encore à vif, où l'arrivée massive de Syriens résonne forcément avec le trajet inverse, leur départ il y a 10 ans, après la révolution du Cèdre qui avait suivi l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri. Fragile le Liban, d'autant qu'il ne se contente pas d'accueillir sur son sol ceux qui fuient la Syrie. Si le pays a choisi la neutralité à l'égard de ce conflit, ce n'est pas le cas de toutes ses composantes. L'une des plus importantes, le Hezbollah, combat aux côtés des troupes de Bachar al-Assad. La guerre syrienne est donc aussi une guerre libanaise. Malgré tout, le Liban tient debout. On peut y voir la preuve de la solidité de ses institutions, de l'ingéniosité qui consiste à répartir les principaux pouvoirs entre les représentants des principales confessions. Sauf que ce modèle libanais est en panne depuis plus de 2 ans, faute de consensus pour élire un président de la République. Une panne à laquelle la guerre en Syrie n'est sans doute pas totalement étrangère. Alors la crise syrienne met-elle à l'épreuve le modèle libanais ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser depuis l'Institut français de Beyrouth, où nous sommes installés, où j'ai le plaisir d'accueillir Christine Babikian-Assaf. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et vous êtes la doyenne de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, qui se trouve à quelques pas de l'Institut français. Pour discuter avec vous, Issa Gorayeb, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste à L'Orient Le Jour, le principal journal francophone au Liban, journal que vous avez dirigé pendant combien d'années ? Une quinzaine d'années, c'est ça ?
Co-dirigé, j'en étais le rédacteur en chef. Je l'ai co-dirigé avec le directeur de l'époque, le directeur de la rédaction, Amin Abou Khaled. Voilà.
Vous deviez être 3. Aujourd'hui, nous attendons un troisième invité.
Pendant 26 ans,
c'est beaucoup plus qu'une quinzaine d'années. Mais je disais, vous deviez être 3 invités. Nous attendons notre troisième invité, Saoud El Maola. On verra bien s'il nous rejoint dans le courant de cette discussion. La première question que je voudrais vous poser à l'un et à l'autre, c'est d'abord une vision un petit peu générale de l'impact qu'a cette guerre qui dure depuis mars 2011 en Syrie. Est-ce que vous diriez, Christine Babikian-Assaf, que plus le conflit syrien dure, plus le Liban se trouve en position de fragilité ?
Ah, ça c'est sûr. D'abord, sur la scène politique locale, l'implication du Hezbollah dans le conflit syrien n'aide sûrement pas à assurer une stabilité politique au Liban. Et puis certainement, la crise des réfugiés syriens, avec, comme vous l'avez dit, un quart de la population libanaise qui est constitué de réfugiés, en rappelant quand même que le Liban est déjà un pays surpeuplé, qui est au bout de ses ressources et qui n'arrive pas à nourrir ses propres enfants, d'où l'émigration très importante depuis un siècle et plus. Donc ceci pose effectivement des défis qui deviennent de plus en plus difficilement surmontables.
Une fragilité de plus en plus importante pour le Liban, Issa Gorayeb.
Oui, on pourrait ajouter également le spectre du terrorisme, qui est lui-même issu de la crise syrienne en très grande partie. Si vous voulez bien, l'idée même d'une formule libanaise allant à la rescousse de la Syrie, elle est séduisante, intellectuellement séduisante, elle est même piquante, elle est chargée d'ironie. Quand on pense que pendant des décennies, les Syriens, avec leur hégémonie, leur domination, leur occupation du Liban, ont prétendu venir en aide à ce peuple de mineurs que nous sommes, à nous aider à nous gouverner et à nous réconcilier et tout cela.
Voilà. Donc il y aurait une forme d'ironie à vouloir inverser l'exemplarité. Cela dit, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur effectivement en quoi ce modèle résiste ou pas à l'impact de cette crise syrienne et en quoi il peut être dupliqué. Mais peut-être d'abord pour rester encore un instant sur la façon dont le Liban résiste malgré tout donc à cet afflux extrêmement massif de réfugiés. Quand on parle d'afflux massif de réfugiés en Europe, ça n'a strictement rien à voir avec ce que vit le Liban depuis quelques années. Est-ce que c'est un facteur de tension aujourd'hui, Issa Gorayeb, au sein de la population ? Ou bien est-ce que ce sont avant tout des tensions économiques, c'est-à-dire le Liban se demande comment faire aussi pour absorber ces populations ?
C'est bien davantage qu'un facteur de tension, c'est une obsession. C'est une obsession qui nous hante tous à l'idée que, comme vous le disiez tout à l'heure, un habitant sur 4 n'est pas libanais. Vous avez oublié la masse de réfugiés palestiniens aussi qui s'ajoute à celle des Syriens.
C'est plus de 400 000, hein, je crois.
Plus de 400 000 selon les... Pardon. Et donc, voilà, c'est une question obsessionnelle de vie ou de mort, pratiquement, pour le Liban.
Christine Babikian-Saf.
Oui, moi, je voudrais intervenir un peu à propos des réfugiés palestiniens, parce qu'il est légitime que le gouvernement libanais ait peut-être des peurs quant à la présence palestinienne avec les résultats qu'elle a donnés au moment de la guerre civile. Mais je trouve qu'il est aussi complètement inacceptable que la communauté internationale n'intervienne pas dans le sujet des réfugiés palestiniens, qui sont des milliers de jeunes enfermés dans des camps à Beyrouth, dans les banlieues, sans aucun avenir professionnel, devant lesquels beaucoup de possibilités professionnelles sont limitées. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi la communauté internationale ne leur donne pas un passeport d'apatride ou autre, comme après la Première Guerre mondiale, les passeports Nansen, au moins pour permettre à ces jeunes palestiniens qui ne demandent rien que de mener une vie normale et de travailler, de partir s'établir ailleurs. Ce n'est pas leur souhait de s'incruster au Liban, mais c'est la communauté internationale qui ne leur donne pas l'occasion de partir.
Donc ça, c'est sur la question des réfugiés palestiniens.
Oui, oui,
par rapport, aux tensions internes que ça peut créer, on voit apparemment qu'au niveau politique, par exemple, cette question des réfugiés, elle est aussi très utilisée dans le débat politique actuel pour dire bah, non, voilà, non, on ne peut plus en recevoir, il faut limiter l'accès du territoire aux réfugiés. Est-ce que ça crée aussi de fortes tensions politiques ?
Écoutez, je pense que tout le monde est d'accord au Liban pour dire que le Liban est tabou, qu'il ne peut plus recevoir, c'est-à-dire rien que physiquement au niveau des infrastructures. Et puis qu'il y a d'autres pays dans la région beaucoup plus riches, beaucoup moins peuplés, qui n'ont pas accueilli de réfugiés syriens. Et c'est là où on va dire que c'est peut-être l'attraction qui joue dans ce sens. Quel réfugié a envie d'aller vivre à Riyad, en Arabie Saoudite, par rapport à la vie qu'il mènerait au Liban ?
Issa Gorayeb.
Je voudrais souligner quant à moi que la politique internationale sur la question des réfugiés syriens nous place, nous, Libanais, dans un véritable cercle vicieux. Parce qu'il s'agit, si j'ai bien compris, d'aider les réfugiés à se fixer au plus près possible de leur foyer d'origine. C'est très lourd de conséquences, tout cela, parce que si le monde donne au Liban assez de moyens pour leur donner une vie décente, ça va encourager beaucoup d'entre eux à ne pas avoir envie de rentrer chez eux, ne pas vouloir rentrer chez eux dans un pays détruit, dans un pays où il faudra des décennies peut-être pour le reconstruire.
Et quel serait le risque pour le Liban
si on ne donnait pas assez d'argent? Ce serait ouvrir la porte à la délinquance, au crime, à toutes sortes de désordres. Voilà.
Mais alors ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'issue par rapport à la situation que vous présentez.
Oui.
Mais imaginons que la communauté internationale donne suffisamment de moyens au Liban pour accueillir et pour fixer ces réfugiés. Est-ce que ce serait pour vous une menace pour l'intégrité du Liban et
Absolument.
Pour la société libanaise?
Avec le temps, oui.
Pourquoi?
Parce que le précédent des réfugiés palestiniens, avec la mauvaise foi internationale qu'a très bien souligné Mme Babikian, on risque d'avoir la même chose avec les réfugiés syriens, c'est-à-dire un apport de réfugiés qui deviendraient résidents et qui prétendraient un statut encore plus net. Voilà.
Et ça fait aussi partie du débat politique aujourd'hui, c'est-à-dire le sort futur de ces réfugiés qui pourraient devenir alors des citoyens libanais à l'avenir.
Écoutez, je crois encore une fois que toute la classe politique est d'accord pour dire que ça constitue un véritable problème. Je ne pense pas qu'il y a de rivalité à ce niveau dans la classe politique libanaise. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des Syriens qui sont au Liban depuis longtemps, une main-d'œuvre syrienne qui, depuis des années, n'est-ce pas, les maçons dans les métiers du bâtiment, les agriculteurs dans la Beka font beaucoup appel à ces Syriens. Mais n'oubliez pas aussi que la scène libanaise est très fragile, la composition démographique confessionnelle libanaise est très fragile. Et je pense que l'arrivée de ces réfugiés fragilise encore plus notre scène politique locale et démographique.
Alors il y a donc cet impact de l'arrivée en nombre très très important de réfugiés syriens au Liban. Et puis il y a aussi cette guerre qui se déroule en Syrie. Est-ce que c'est une guerre qui, pour vous, Christine Babikian-Assaf et Issa Gorayeb, pose des problèmes en termes sécuritaires pour le Liban? Est-ce que d'abord c'est une guerre dont vous voyez justement certaines manifestations sur le territoire libanais? On a quand même l'impression que le Liban, malgré tout, petit pays géographiquement par rapport à son voisin syrien, a réussi à contenir cette guerre à l'extérieur de ses frontières. Tant bien que mal peut-être, mais quand même il y a réussi. Écoutez, je vous vois sourire, Christine Babikian-Assaf.
Moi, je vous répondrai à deux niveaux. D'abord, c'est sûr que ce n'est pas le Liban seul. Loin de là, c'est la communauté internationale. Tant qu'il y a une décision de garder le Liban à l'écart de ce conflit, en principe, ce sera comme ça. Maintenant, il est vrai que l'armée libanaise a su aussi, et je salue en fait l'action des services de renseignement, de la coordination, parce que le danger est, et on le voit bien dans les régions de Arsal, au nord, etc., donc cet islamisme sunnite et les attentats qui ont été faits contre l'armée. Donc non, il y a un danger sécuritaire au Liban, mais de là à dire que ceci va provoquer une nouvelle guerre civile, ce n'est pas possible, d'abord parce qu'il y a un déséquilibre des forces. Il y a le Hezbollah qui a la supériorité militaire absolue. Donc je ne pense pas qu'il ait des compétiteurs sur le terrain. Et deuxièmement, puisque la communauté internationale sûrement voudrait bien que le Liban reste à l'écart pour le moment.
Pour l'instant, le Liban réussit à rester à l'écart, militairement en tout cas, de ce conflit. Issa Ghoriaieb, et l'armée libanaise parvient à sécuriser les frontières?
Elle parvient effectivement à sécuriser les frontières, mais nous ne parvenons pas encore à enrayer totalement le terrorisme qui peut très bien se glisser à travers les frontières. Et là, c'est une conséquence, à mon avis, inévitable de l'intervention du Hezbollah en Syrie. Il a été tiré le dragon par la queue. En prétendant prendre les devants et l'empêcher de se manifester au Liban, c'est tout à fait l'inverse qui est arrivé.
Il y a eu d'ailleurs ces derniers mois des attentats à Beyrouth, qui étaient liés justement directement à cette implication du Hezbollah dans la guerre.
Qui ont été très méchants et très meurtriers et donc ne sont pas à l'abri. C'est survenu en même temps d'ailleurs que les attentats de Paris à un moment. Donc, nous ne sommes pas tout à fait à l'abri des retombées militaires et paramilitaires de la Syrie.
Alors il y a quelque chose qui est sans doute un petit peu compliqué à comprendre pour le public français, qui apparaît comme une forme de contradiction. C'est-à-dire on a à la fois un État libanais et une armée libanaise qui ont affiché leur neutralité par rapport au conflit syrien. Alors bien sûr, on défend les frontières, mais on ne s'implique pas dans ce conflit. Par exemple, le Liban ne participe pas à la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Et en même temps, il y a une de ses principales composantes de cette société libanaise, le Hezbollah, qui combat directement en Syrie. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui pose problème aujourd'hui au sein de la société libanaise? Est-ce que c'est un très fort facteur de tension?
Absolument. C'est la principale pomme de discorde entre les Libanais aujourd'hui. Cette arrogance du Hezbollah qui se conduit comme si c'était lui qui décidait de la paix ou de la guerre. Donc, une initiative militaire et aussi en matière de politique étrangère. Alors que le Liban professe une neutralité. Les alliés du Hezbollah, qui se trouvent être aux commandes du ministère des Affaires étrangères, trouvent moyen d'avoir une politique différente de la politique de distanciation décidée par le gouvernement libanais. C'est dingue.
On pourrait dire presque qu'il y a un État officiel, Christine Babikian-Assaf, et puis un État parallèle, un État dans l'État qui...
Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est le cas, et c'est pas seulement un État avec tous les attributs de la souveraineté étatique, et d'abord la milice armée, évidemment. Mais c'est là encore où je dis que quand même il y a des enjeux internationaux, des rapports de forces internationaux qui interviennent, parce que à partir du moment où je commence par le macro, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie s'entendent, donc la Russie fait pression sur son allié iranien et syrien, à ce moment-là, certainement l'implication du Hezbollah va changer. Mais tant que ce n'est pas le cas, c'est une carte entre les mains à la fois des Iraniens et du pouvoir syrien et des Russes.
Je discutais hier soir avec une jeune femme libanaise qui m'expliquait que justement l'implication du Hezbollah et donc l'impact direct de cette crise syrienne sur la société libanaise se traduisait par le retour de nouvelles fractures avec, m'expliquait-elle, certaines personnes qui aujourd'hui ne se parlent plus selon qu'elles soient pro-Hezbollah ou anti-Hezbollah, et même certaines personnes qui choisissent de déménager, de quitter l'endroit où elles vivaient, parce qu'elles ne supportent plus de partager le même territoire avec des personnes qui ne sont pas d'accord sur ce point. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté l'un et l'autre, dont vous avez entendu parler, Issa Ghoriaieb?
Pas moi, non. Je trouve que c'est des cas assez isolés quand même. Parce qu'un des miracles du Liban, miracle entre guillemets, les images d'Épinal qui ne sont pas tout à fait mensongères, c'est ce fait de cohabiter malgré les différences d'opinion. Non, j'ai pas mal d'amis personnellement qui ne pensent pas comme moi. Ça ne m'empêche pas de cohabiter avec eux.
Christine Babikian-Assaf.
Enfin, moi, j'ai le témoignage d'une étudiante qui habite dans le sud et qui fait justement son mémoire sur les réfugiés syriens et qui me disait en filigrane que le poids du Hezbollah commence à être un peu dérangeant pour les habitants. Mais bon, en même temps, vous savez, c'est un parti qui a permis à une partie de la population qui était complètement écartée du pouvoir de s'affirmer, d'avoir son rôle sur la scène politique, d'être plus prospère économiquement. Et ça, certainement, tous ceux qui, grâce au Hezbollah, ont désormais leur mot à dire en tant que communauté, ne vont pas abandonner leur soutien à cette formation.
On parlait justement d'État dans l'État. Ce n'est pas seulement la milice armée, ce n'est pas seulement une politique étrangère différente de celle du pays, c'est surtout des services qui sont censés être étatiques, que l'État ne donne pas au public du Hezbollah, mais que le Hezbollah donne, qu'il s'agisse d'hôpitaux, d'aide sociale, d'écoles, de toutes sortes de... Voilà, c'est encore plus important à mon avis que la politique de défense ou étrangère.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
La crise syrienne met-elle à l'épreuve le modèle libanais? C'est la question que nous posons à Christine Babikian-Assaf et Issa Goraïeb. Christine Babikian-Assaf, historienne doyenne de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, et Issa Goraïeb, éditorialiste à L'Orient le Jour, le principal journal francophone au Liban. Nous sommes toujours à l'Institut français de Beyrouth au Liban. Nous étions à l'extérieur jusqu'à présent. Nous nous sommes repliés dans un endroit un peu moins assourdissant. Il y a des travaux dans les rues de Beyrouth, raison pour laquelle voilà, nous avons, pour poursuivre cette discussion, cherché un petit peu plus de calme. Alors Issa Goraïeb, vous évoquiez ce modèle politique libanais dont on a une image peut-être un petit peu trop idéale. Moi, j'aimerais savoir avec vous et avec vous, bien sûr, Christine Babikian-Assaf, si la crise syrienne a un impact aujourd'hui sur ce modèle et en particulier sur la crise institutionnelle qui existe au Liban depuis plus de 2 ans, à savoir l'impossibilité pour le pays à trouver un consensus pour le poste du président de la République.
Oui, alors ça aurait été l'occasion, comme l'a dit M. l'ambassadeur Emmanuel Borne une fois devant des personnes de l'USJ, une occasion unique pour que les Libanais, pour une fois, choisissent eux-mêmes leur président de la République. Mais en même temps, cette élection est sujette à plusieurs enjeux. Et ce sont ces mêmes enjeux qui reviennent et qui troublent finalement toute la scène politique libanaise, c'est-à-dire cette division entre sunnites et chiites, entre chrétiens et musulmans, qui va prendre la plus grande part du gâteau, cette peur de l'exclusion qui, d'après moi, explique beaucoup, beaucoup de problèmes de la région depuis plus d'un siècle, n'est-ce pas? Donc tout ceci est à l'œuvre dans cette symbolique de l'élection présidentielle. Et évidemment, avec chacune des communautés qui s'appuie sur un protecteur, entre guillemets, extérieur, ça devient une chose très difficile. Et c'est là où la crise syrienne intervient directement dans l'élection, parce que chaque parti considère que si c'est son candidat à elle qui sera élu président, donc à ce moment-là, c'est elle qui a pris le dessus, c'est-à-dire d'un côté le Hezbollah, de l'autre côté les autres forces sunnites.
Donc non seulement cette crise n'a pas permis une forme de réconciliation, ou en tout cas de cohésion nationale, mais a plutôt contribué à recréer des divisions. Vous êtes d'accord avec ça, Issa Goraïeb?
Absolument. Il y a évidemment les facteurs internes évidents et aussi beaucoup de facteurs étrangers, dont essentiellement la guerre de Syrie. Mais il ne s'agit pas que de la présidence de la République. On est trop obnubilé par le vide de la vacance présidentielle actuelle.
Pourquoi c'est pas important le poste de président de la République au Liban?
C'est fantastique, c'est très important évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a un Parlement qui s'auto-reconduit depuis 4 ans déjà. Il y a un président du Parlement qui lui-même bloque les portes de l'Assemblée pendant des mois et des mois. Il y a une constitution que chacun se sent libre d'interpréter à sa guise. En ce moment, on a dit chacun interprète la Constitution comme il veut. Elle ne tranche plus la Constitution dans ce pays. Donc il y a, vous parliez d'un système en panne, il est plus qu'en panne, il est totalement grippé. Et c'est pourquoi, c'est mon opinion personnelle en tout cas, je crois que le blocage actuel a pour objet de conduire petit à petit, graduellement, à un vide tel qu'il faudra renégocier ou redéfinir le pacte national de 1943.
Ah oui, mais
c'est mon opinion personnelle.
Alors peut-être d'ailleurs faut-il redire un mot de ce qu'est ce pacte national de 1943. Et là, je me tourne vers l'historienne Christine Babikian-Assaf.
Écoutez, vous savez que le Liban est né dans des circonstances particulières. Il a été créé en 1920, à la fin de l'Empire ottoman. Et il a voulu offrir une garantie aux chrétiens du Mont Liban en ajoutant à la wilaya de Beyrouth qui s'étendait pratiquement de l'attaquer jusqu'à presque Haïfa, les régions donc du Liban, de la Moutassarifia du Liban et la Bekaa. Et donc il y a eu aussi la création des États syriens et pas d'une Syrie unifiée à l'époque du mandat français. Donc c'est depuis qu'il y a des divergences, notamment de la part des musulmans sunnites qui étaient beaucoup, très nombreux à Tripoli, et qui ont refusé ce Liban à visage chrétien. Bon, évidemment, la période du mandat français a correspondu à une période de construction étatique, que ce soit au Liban et en Syrie. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment de l'indépendance, les deux États sont devenus véritablement indépendants et avaient déjà derrière eux toute cette construction étatique qui n'est pas seulement la mise en place du politique, mais aussi de l'économique, de l'infrastructure, etc. Donc, c'est le moment aussi où les Libanais se mettre d'accord entre eux dans un pacte non écrit finalement, que les chrétiens arrêteront de se considérer uniquement comme une partie tournée vers l'extérieur, qu'elles reconnaîtront un visage arabe au Liban et que les musulmans du Liban acceptent l'existence du Liban et ne seront pas en... Enfin, ils acceptent l'existence du Liban, donc ils ne demandent plus l'unité avec la Syrie. Et il ne faut pas oublier non plus que la création de la Ligue des États arabes vient enterrer toutes les idéologies d'unité arabe, puisque, comme vous le savez, elle affirme la souveraineté des différents États arabes qui ont été constitués.
Et vous diriez que ce pacte-là, aujourd'hui, il n'est plus adapté à la réalité de la société libanaise ?
Non, moi je trouve que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, enfin là aussi c'est une opinion personnelle, d'après moi, aucune frontière ne va changer au Moyen-Orient. D'après moi... D'ailleurs, la preuve, le Liban, après 15 ans de guerre, malgré l'occupation syrienne, israélienne, etc., ses frontières internationales sont toujours les mêmes. Et je pense qu'il y a eu une expérience de l'État. Et quand je dis l'État, c'est cette administration qui est la colonne vertébrale de l'État qui continue. Donc, je ne pense pas que ce pacte national soit en danger, surtout qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui a d'autres aspirations, mais certainement que la coexistence islamo-chrétienne et islamo, c'est-à-dire sunnito-chiite, certainement est marqué par des replis croissants.
Sur cette question du modèle politique libanais et sur sa capacité peut-être justement à absorber les crises ou au contraire à créer des crises, je voudrais vous dire ce qu'en pense un de vos confrères. Enfin, il est historien, donc en l'occurrence c'est un de vos confrères à vous, Christine Babikian-Assaf, mais j'ai trouvé ça dans un article de L'Orient le Jour, donc vous êtes aussi concerné ça, Goraïeb, c'est l'historien Ahmad Beydoun qui dit ceci: un système politique confessionnel comme celui établi au Liban, donc où on répartit aussi les principes la sphère du pouvoir, le Parlement, le gouvernement et la présidence selon les confessions. Un système politique comme celui établi au Liban ne met jamais fin aux conflits qu'il était censé résoudre. Bien au contraire, dit-il, il les perpétue indéfiniment, les camouflant. Et chaque nouvelle crise politique, chaque changement démographique représente une menace de guerre civile. Alors là, il y a un changement démographique important lié à la crise syrienne et à l'arrivée des réfugiés. Est-ce que cette menace de guerre civile, c'est une menace qui vous semble réelle aujourd'hui, Sagoraïeb, ou bien est-ce que cet historien Ahmad Beydoun l'exagère un peu à vos yeux ?
Moi, je trouve qu'effectivement, il exagère un peu, parce que entre le calme total et la guerre civile, il y a des tas de nuances que nous vivons au quotidien dans ce pays. Des crises, des tensions, des démissions intempestives de ministres, des choses comme ça. Non, la gamme, l'éventail est assez large. Mais ce que je voudrais dire, il se trouve que monsieur l'historien en question est lui-même chiite. Et que je voudrais rappeler que le pacte de 1943 qui a distribué les présidences était essentiellement un accord maronito-sunnite. Et que je trouve aujourd'hui que la communauté chiite, qui s'est longtemps plainte d'être marginalisée, déshéritée, il se trouve qu'elle est aujourd'hui la plus puissante des communautés libanaises.
Vous voulez dire, c'est une puissance démographique ou une puissance politique ?
Démographique, financière, paramilitaire et même étrangère, avec le soutien massif de l'Iran. Donc, c'est une communauté qui estime qu'elle a des droits à récupérer, qu'elle a des droits à affirmer. Et c'est de là que je pense que son objectif, l'objectif des gens qui président au destin des chiites du Liban, leur objectif c'est de renégocier, d'améliorer le pacte de 43 qui ne correspond plus à la situation véritable du Liban.
Mais ce que vous laissez entendre finalement, Issa Gorayeb, c'est que cet historien-là, il parle d'abord en tant que membre de la communauté chiite avant de parler comme
non,
historien,
pas,
c'est
pas
ça ?
Pas nécessairement, non, pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour M. Baydoun et il le sait, c'est beaucoup d'amitié aussi. Non, mais le hasard fait que il appartient à une communauté chiite qui a pas mal de revendications à satisfaire. Voilà.
Revendications que vous constatez aussi, Christine Babikian-Assaf, et que vous considérez comme légitimes peut-être ?
Non, non, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que la communauté chiite joue pleinement son rôle, qu'elle a été réintégrée sur la scène politique locale libanaise, qu'elle ne peut plus, enfin, qu'est-ce qu'elle va demander d'autre, que ce soit au plan économique, politique, je ne pense plus du tout que c'est une communauté marginalisée. Mais moi, je voudrais revenir sur le système confessionnel dont vous parlez, parce que oui, beaucoup de Libanais sont laïcs, entre guillemets, trouvent que la religion doit faire partie de la sphère privée. Mais moi, je voudrais vous rappeler que dans tous les pays du Moyen-Orient, le seul pays où on a 18 communautés qui cohabitent et 18 communautés qui sont toutes participantes au pouvoir et représentées dans le pouvoir, il n'y a que le Liban à cause ou grâce à ce système confessionnel. Donc, si vous voulez mettre fin à ce système confessionnel, il faut d'abord commencer par des mariages mixtes, par abolir le confessionnalisme dans les mentalités. Et une fois que ceci sera fait, certainement, ce sera plus facile au niveau politique. Mais pour le moment, c'est très facile de parler quand on appartient à un pays monoculturel, monoreligieux. En France même, en Europe, on a chassé tout ce qui n'était pas catholique, etc. Donc c'est plus facile qu'ici.
En France, depuis quelques années, d'ailleurs, on parle de changements institutionnels. On évoque la création d'une 6e République pour rompre avec les défauts qu'a la 5e République. Est-ce que ce débat institutionnel, il existe aussi au Liban aujourd'hui avec l'idée peut-être justement de passer à une autre forme d'organisation, Issa Gorayeb ?
Vous posez une question vraiment difficile parce que quoi qu'on dise, et beaucoup de Libanais vous diront qu'ils sont pour la laïcité et tout. Mais dans le fond, je crois qu'ils ont peur d'une laïcité mal appliquée et qui serait sournoise et qui favoriserait des bouleversements communautaires concernant les principaux postes de l'État.
Ce qui leur fait peur, c'est quoi ? C'est l'exemple que pourrait renvoyer, par exemple, à la France, qui est le pays, paraît-il, de la laïcité ?
Oui, beaucoup de Libanais s'en font vraiment pour la France, croyez-moi.
Pour revenir quand même alors au Liban, c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc vous disiez, bon, finalement, il ne faut pas non plus peut-être trop noircir le tableau par rapport à ce modèle politique libanais. Mais il y a peut-être aussi, à l'inverse, certains qui pourraient être tentés d'en faire une forme de modèle idéal. Et alors là aussi, ce sont des propos que j'ai trouvés hier dans L'Orient au le jour, que vous avez dirigé, Issa Gorayeb. C'est Monseigneur Boulos Matar, qui est l'archevêque maronite de Beyrouth, voilà, qui intervenait en disant, c'est à la région de lier son sort à celui du Liban et non le contraire. Il faut faire du Liban un exemple vivant et séduisant du vivre ensemble de ses habitants. Est-ce que ça veut dire que le Liban pourrait servir de modèle de sortie de crise à son voisin syrien ? Après tout, le Liban a connu une guerre civile, même si évidemment ça n'avait rien à voir, ça n'était pas du tout le même type de guerre que celle que connaît la Syrie. Mais en tout cas, est-ce que sur son organisation institutionnelle, ça pourrait être un modèle exportable, Christine Babikian-Assaf ?
Je ne pense pas du tout, parce que les situations sont très différentes. La composition démographique de la Syrie est très différente de celle du Liban. La diversité ethnique et confessionnelle est beaucoup moins marquée qu'au Liban. Donc il y a quand même une communauté sunnite qui est majoritaire. Donc je pense pas du tout. Oui, donc je ne pense pas du tout que ce modèle soit exportable. Et je voudrais revenir sur une chose, c'est qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui est très paradoxal au Liban. C'est à la fois, comme vous avez dit, ce vivre ensemble, ce mélange, mais d'un autre côté, un repli qu'on constate, n'est-ce pas, sur sa confession, sa communauté. Vous avez dans certaines régions des chrétiens et à l'inverse des musulmans qui ne mettent pas les pieds dans des régions purement chrétiennes ou musulmanes. Donc il n'est pas dit que ce modèle soit le meilleur.
C'est quelque chose de nouveau, ce repli communautaire. Enfin, en tout cas, ce serait un retour du repli communautaire aujourd'hui, que vous dateriez de quand et que vous expliqueriez comment, Christine Babikian-Assaf.
Depuis la fin de la guerre. depuis la fin de la guerre civile libanaise, au lieu de résoudre le problème des relations intercommunautaires, la guerre a aggravé le problème. Et à chaque fois, je voudrais mettre l'accent sur les événements régionaux internationaux. C'est-à-dire, si le Liban vivait seul, à l'abri de tout ce qui l'entourait, il n'aurait pas eu autant de problèmes, n'est-ce pas? Mais c'est à chaque fois ce qui se passe dans la région qui va provoquer des replis, des réactions de la part des locaux.
J'ajouterais que depuis la fin de la guerre et à tous les clivages islamo-chrétiens est venue s'ajouter la cassure sunnito-chiite qui pèse énormément aujourd'hui et dans la région et au Liban. Voilà. Alors avant de parler de modèles exportables vers la Syrie, je voudrais beaucoup que les Libanais eux-mêmes méritent à nouveau leur modèle. Qu'ils commencent par l'humilité.
Parce que vous nous disiez au tout début de l'émission, imaginer d'exporter ce modèle libanais, c'est quelque chose de très audacieux, Issa Ghorayeb.
Plus qu'audacieux, je dirais, je suis d'accord avec Mme Mavikian, que la configuration syrienne est différente. C'est vrai qu'il y a une mosaïque de communautés, mais les proportions sont totalement différentes de celles qui existent au Liban. Donc ce n'est pas un prêt-à-porter, la formule libanaise, non.
Dans ce que vous dites l'un et l'autre, il ressort à plusieurs reprises le fait que le Liban subit beaucoup les rivalités régionales. Alors il y a évidemment la crise syrienne, mais en gros, la grande rivalité aujourd'hui, c'est entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Est-ce que ça n'est pas une façon un petit peu aussi de dédouaner le personnel politique libanais qui se sert aussi de cette rivalité-là?
Vous l'aviez dit
aujourd'hui, oui, Christine Babikian-Assaf.
Mais bien sûr. C'est toujours un prétexte parce que finalement, quel est l'objectif du personnel politique libanais? C'est d'abord de garder un État faible. Parce que c'est cet État faible qui leur permet à eux d'être forts, d'avoir une clientèle, de mettre la main sur les principales ressources de l'État. À partir du moment où l'État devient fort, ils vont scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et en même temps, cet État existe, il est fort, c'est-à-dire quand il veut s'affirmer au niveau fiscal ou autre, il peut être très présent. Donc ça, c'est un peu ce paradoxe.
Issa Ghorayeb.
Et voilà, ça fait des décennies, par exemple, qu'on n'arrive pas à s'entendre au Liban sur une loi électorale, une nouvelle loi électorale. Nous élisons, en base d'une loi qui date de 1960. Parce qu'on n'arrive pas. Et pourquoi? Parce que ce sont... Le législateur ne pense qu'à une chose, c'est de rester en place. Les députés veulent du sur-mesure qui les arrange. Bon, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à dire que, d'une certaine façon, la crise syrienne est une forme d'aubaine pour ce personnel politique qui se satisfait d'un statu quo, justement. C'est-à-dire que ça permet à chacun de rester campé sur ses positions, en disant, ben voilà, c'est mon camp qui défend le mieux la Libanité, qui va vous défendre du camp opposé. C'est nous qui sommes les porteurs de la meilleure solution politique. Et du coup, finalement, on n'arrive à aucune solution politique.
La guerre syrienne a été un argument de plus pour cela, parce que déjà, bien avant la guerre syrienne, il y avait tous ces paradoxes, tous ces phénomènes pervers-là que l'on voit aujourd'hui.
Il y a un chercheur français qui travaille ici au Liban qui s'appelle Vincent Gesser, qui est chercheur à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, qui dit qu'on a l'impression que la Syrie n'est qu'un prétexte à l'expression d'enjeux principalement libanais. Christine Babikian-Assaf.
Je suis tout à fait d'accord. Tous les prétextes sont bons pour rester au pouvoir, pour grignoter encore plus de pouvoir, et encore une fois du pouvoir économique et financier.
Et donc la Syrie fait partie de ces prétextes?
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et on va faire peur à l'autre. D'ailleurs, peut-être que, je ne sais pas si on doit terminer, mais je veux parler quand même de ce mouvement civil qui a été déclenché.
Alors j'allais y venir justement, parce qu'il y a une immobilité du personnel politique, mais par contre il y a une société civile qui, elle, bouge. La crise des ordures, comme
Absolument.
On l'a appelé l'an dernier.
Vous puez.
Dégagez. Enfin voilà, partez. Est-ce que c'est du côté de la société civile qu'il faut attendre aujourd'hui une réaction à cet immobilisme politique, Christine Babikian-Assaf?
Écoutez, moi je peux en parler parce que j'étais de toutes les manifestations, y compris de la première quand j'avais très peu d'amis qui étaient descendus manifester. Je suis un peu plus suspicieuse aujourd'hui parce que cette société civile, elle a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire elle n'a pas un seul leader, vous voyez, donc elle est assez éclatée. Il y a évidemment comme d'habitude, des rivalités personnelles. Et il y a eu une peur de la part des partis politiques face à l'ampleur prise par le mouvement. Donc ces partis se sont remis à jouer sur les peurs ancestrales de leurs partisans en leur disant « voilà, attention, si on s'affaiblit, tu as l'autre qui va te bouffer, etc. » Donc oui, je trouve qu'il y a vraiment une grande puissance dans ces mouvements civils, mais que l'État, les partis politiques sont très forts et constituent comme un mur qui est vraiment difficile à casser pour le moment.
Oui, mais d'autant plus que ce mouvement civil extrêmement admirable au départ, pur, honnête, a fait l'objet aussi de tentatives de récupération par plus d'un parti politique, ce qui a fait une ombre au phénomène. Et ils ont manqué de souffle aussi. On a vu les rangs se disperser petit à petit, faute de résultats vraiment probants.
Et peut-être une forme de désillusion de la part de ceux qui avaient participé à ce mouvement, voyant que ça n'aboutissait pas.
De baisse d'enthousiasme, d'élan, de volonté, mais ça peut reprendre.
Qu'est-ce qui pourrait redonner justement de l'élan et de l'enthousiasme à ce mouvement? Et alors là aussi, pour revenir, puisque c'est quand même aussi l'objet de l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire à voir comment la guerre en Syrie impacte la société libanaise, est-ce que, pour redonner de l'enthousiasme et pour redonner peut-être un espoir aussi à cette société libanaise, ça passe notamment, pas seulement bien sûr, mais par la résolution du conflit syrien? Christine Babikian-Assaf.
Écoutez, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de très nombreux partis politiques qui sont en cours de formation actuellement dans la société civile. Mais encore une fois, la multiplicité et le manque de moyens financiers et de mobilisation comparé à ce qu'ont les partis traditionnels rend ces mouvements assez faibles. Mais je pense qu'avec le temps, ils risquent quand même de s'affirmer.
Issa Gorayeb, vous êtes plutôt quoi? Optimiste? Pessimiste aujourd'hui? Attentiste?
Je suis sceptique, mais penchant vers un optimisme prudent. À cause de la société civile. Pas pour autre chose.
Je voudrais quand même dire une chose, c'est que dans tout ça, on n'a pas parlé d'un acteur quand même qui est très important dans la région, qui est Israël. Oui. On a beaucoup parlé de la crise syrienne, mais quand même l'acteur israélien est incontournable. Il explique beaucoup de problèmes, y compris de la société libanaise, à part les réfugiés palestiniens. Certainement que la politique de deux poids, deux mesures adoptée au niveau international et surtout par les Américains vis-à-vis d'Israël constitue un très gros problème au Liban. Ainsi que la politique du fait accompli et la façon dont les Israéliens traitent, que ce soit les Palestiniens israéliens ou les Palestiniens des territoires autonomes. Donc ça aussi, c'est un gros problème pour le Liban.
Voilà, ne pas sous-estimer l'impact de la crise syrienne pour le Liban, mais ne pas non plus oublier l'impact de la politique israélienne pour le Liban, Issa Gorayeb.
Absolument, d'autant plus que techniquement, nous sommes toujours un pays occupé, si on considère que les fermes de Sheba n'ont pas été évacuées par Israël, ce qui, entre parenthèses, donne un prétexte en or au Hezbollah de conserver son arsenal, parce que l'occupation continue et que la résistance est donc reste légitime. Quelle résistance? Elle est aujourd'hui accaparée par le brasier syrien. Il n'y a plus de résistance face à Israël. Donc effectivement, le facteur israélien est capital dans ce qui se passe dans ce pays.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés justement sur la réalité libanaise. Merci Issa Gorayeb, donc je rappelle, éditorialiste à L'Orient Le Jour, un journal qu'on peut retrouver assez facilement en France sur Internet. Et merci à vous Christine Babikian-Assaf, doyenne de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Saint-Joseph. Je remercie également tout le personnel de l'Institut français de Beyrouth, Sabine de Bustros et Rana Haït qui nous ont aidé pour préparer cette émission. Un grand merci à toute l'équipe du Grand, en particulier à Fanny Richer. Émission réalisée par Benjamin Hu à Beyrouth et par Jean-Christophe Francis à Paris, avec à la prise de son Gilles Gallinaro, Eric Damaggio, chargé de production Rémi Gouriou. Je vous retrouve demain, ce sera en direct à Paris pour le Club des idées du Grand, avec la question suivante: la lutte contre le terrorisme nuit-elle à la liberté d'expression? Tout de suite, c'est Ping Pong, le sommaire, avec Mathilde Serrel et Martin Kenéen. Bonsoir.